bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Selon le classement annuel de Reporters sans frontières sur l'état de la presse, la Mauritanie, les Seychelles et la Côte d'Ivoire sont mieux positionnés que les États-Unis. Le Gabon, la République centrafricaine, le Niger et le Bénin, entre autres pays africains francophones, devancent le Sénégal et le Rwanda. En matière de liberté de la presse, l'Érythrée est en fin de classement RSF et la Norvège en tête de liste. Alors quel est l'état de la presse dans votre pays? Quels sont les obstacles à la liberté de la presse dans le monde? Comment promouvoir une information équilibrée et non partisane? Nous allons en parler notamment avec nos invités qui sont Eugénie Dieki de Vox Africa TV, ancienne directrice des programmes d'Africa numéro 1, première radio africaine international. Merci beaucoup Eugénie d'être avec nous.
Bonjour Nathalie et merci de m'avoir invitée.
Et nous avons également Grâce Israël Kangundu qui est présidente de l'ACOFEP, l'association congolaise des femmes de la presse écrite. Grâce, merci également d'être avec nous.
Merci, merci beaucoup Nathalie.
Alors Grâce, donc l'ACOFEP a lancé une pétition de plaidoyer pour la reconnaissance officielle de 22 journalistes assassinés en RDC. L'un de ces journalistes était votre père, Franck Kangundu, assassiné avec son épouse en 2005. Nous comprenons donc que c'est une question douloureuse pour vous. Pourriez-vous nous éclairer sur ce dossier? Ces journalistes tués le sont-ils généralement à cause de leur profession?
Merci beaucoup Nathalie. Comme vous venez de me présenter, je suis Grâce, activiste de droits de femmes et journaliste en République démocratique du Congo. Mais pour l'instant, je me suis consacrée à mener une lutte pour obtenir la reconnaissance nationale de 22 journalistes assassinés, dont mon père. Donc je suis la victime principale des atrocités pour des crimes commis contre des journalistes. Alors, d'abord, cette liste de 22 journalistes assassinés pendant l'exercice de leur métier, nous l'avons tirée de l'organisation GED, Journalistes en danger, qui a enquêté sur chaque assassinat de ces journalistes et qui certifie que ce ne sont pas des crimes crapulés, mais ce sont des crimes politiques ou des crimes d'État. Alors, ça fait 19 ans pour la cause de mon père, ça fait presque 19 ans depuis que mon père a été assassiné et nous étions pendant longtemps dans le silence avec le régime de l'époque. On ne pouvait même pas se soulever pour réclamer justice, bien qu'il y ait eu un procès en 2006, mais qui n'avait pas satisfait les organisations de défense des droits de l'homme, de journalistes, même la famille. Donc on ne pouvait même pas interjeter appel. Alors aujourd'hui, ça fait 19 ans, je me dis, je ne pars pas en justice, je ne réclame pas seulement la justice, mais je travaille maintenant pour réclamer la reconnaissance nationale de tous ces journalistes que GED certifie qui ont été assassinés pendant l'exercice de leur métier. Donc, ils sont tués pour la vérité et ils ont payé lourdement le prix de la liberté de la presse.
Merci beaucoup, Grâce. Restez avec nous. Écoutons tout de suite une journaliste camerounaise. C'est Marthe Bosomo-Bogmis. Elle est directrice commerciale de la SOPECAM. C'est la Société de presse et d'édition du Cameroun.
Au Cameroun, la presse est confrontée à plusieurs défis, notamment des restrictions gouvernementales, des menaces et des intimidations, parfois envers les journalistes, ainsi que des difficultés économiques. Malgré ces obstacles, de nombreux journalistes camerounais continuent de travailler courageusement pour informer le public et défendre la liberté d'expression. Les principaux obstacles à la liberté de la presse dans le monde comprennent la censure gouvernementale, les lois restrictives sur les médias, les attaques physiques et verbales contre les journalistes, ainsi que la pression économique exercée par certains acteurs politiques ou économiques. Les gouvernements et les organisations internationales peuvent également jouer un rôle en protégeant la liberté d'expression et en encourageant la diversité médiatique. Les femmes journalistes, quant à elles, malheureusement, sont souvent confrontées à des pressions supplémentaires en raison de leur genre, y compris le harcèlement sexuel, les stéréotypes de genre et les menaces en ligne. Il est crucial de reconnaître et de combattre ces formes de discrimination afin de créer un environnement de travail sûr et inclusif pour toutes les professionnelles des médias.
C'était la journaliste camerounaise Marthe Bossomo-Bogmis. Alors, on a également comme invité Eugénie Dieki. Eugénie, dites-nous, tout au long de votre carrière, avez-vous connu des hauts et des bas en matière de liberté de la presse, notamment au Gabon ou en France ?
Merci pour la question. Alors, je dois vous avouer que non, en fait, je n'ai pas connu de restrictions à ce niveau-là. J'ai eu la chance, et ça date de 1988, j'ai commencé à Africa Numéro 1988, j'ai eu la chance d'être encadré par des hommes qui avaient conscience de la place et du rôle que la femme pouvait jouer dans ce secteur essentiel, la liberté de la presse. Donc je n'ai pas eu de pression particulière, on ne m'a jamais interdit de dire mon opinion, même si elle dérangeait, mais je pense que ça tient, et peut-être qu'on y reviendra, à la façon de dire les choses. C'est un métier qui est difficile, qui est dangereux, et la posture que l'on a, les mots que l'on emploie, l'honnêteté intellectuelle qu'on doit avoir, et une forme de, comment dire ça, il faut pas être, quand les autorités politiques voient que vous n'êtes pas malléable et que vous faites votre métier avec conscience, vous n'êtes pas embêté en fait, vous n'êtes pas empêché de faire votre métier. Donc je n'ai pas personnellement été empêché de faire mon métier.
Merci beaucoup Eugénie. On va écouter à présent un Togolais, c'est Sena Dodzi Kwadio. Et tout de suite après, on ira en Guinée pour écouter la journaliste Moussa Yeroba. On écoute d'abord Sena.
Je pense que tout d'abord, nous devons chercher à savoir qu'est-ce que la presse, quelle est l'importance de la presse dans notre vie, et de chercher à défendre la liberté de la presse. La presse, elle est très importante car elle nous aide à mieux nous informer. La presse informe le monde entier. La presse promouvoit le monde et la presse promouvoit toute activité. Donc je pense que nous devons nous battre pour la liberté d'expression dans nos pays. Dans mon pays, je pense que la presse est respectée, les journalistes sont respectés et la liberté d'expression aussi est respectée. Il faudra que les autres pays dans le monde entier protègent les journalistes et protègent aussi la liberté d'expression et combattent pour que la presse puisse être un travail libre et transparent à tout et chacun. Donc, nous soyons des acteurs clés de la liberté d'expression dans le monde entier.
La journée internationale de la liberté de la presse est célébrée dans des conditions très difficiles pour nous parce que depuis octobre, depuis plus de 6 mois maintenant, nos ondes sont brouillées. Par exemple, notre télévision décrochée du bouquet Canal Plus par les autorités guinéennes, et ce qui a conduit vraiment à une situation dramatique parce que aujourd'hui, nous avons été obligés de renvoyer 70% du personnel du groupe Refou Media, sachant bien que le groupe est composé de Radio Espace Guinée, d'Espace TV, de Kalak Radio, mais aussi de Suite FM. Et on ne pouvait plus tenir parce que ce qui se passe est dramatique et on ne peut pas faire de publicité parce que les ondes sont brouillées. Nous produisons, nous travaillons comme d'habitude, mais en fait, les gens ne peuvent pas nous écouter parce que les autorités ont décidé de mettre de la musique militaire et d'autres sortes de musique sur nos antennes. Et il n'y a pas que nous, il y a d'autres médias. Il y a par exemple Dioma Media, il y a Évasion. Et ce que nous avons compris que les autorités voudraient qu'on fasse justement, c'est que nous nous engagions à ne pas faire de la critique, à ne pas mener des investigations pour essayer de dénoncer d'éventuels cas de corruption. C'est un vrai recul, un véritable recul de la liberté d'expression en Guinée. Mais nous continuons à tenir le coup dans l'espoir que la situation pourrait s'arranger parce que des associations de presse ont rencontré le premier ministre qui nous informe que le président est fâché contre certains de ses amis et à cause de ça, il a décidé donc de fermer des médias et cela a conduit pratiquement à une perte de travail de plus de 500 personnes en République de Guinée, notamment des journalistes. Et donc, nous informe que certainement la situation pourrait se régler et on espère que ce sera le cas.
Voilà, c'était la journaliste guinéenne Moussa Yeroba de Radio Guinée Espace. Puisqu'on est en Guinée, on va y rester. On retrouve une autre journaliste, c'est Asma Oubari.
Aujourd'hui, il y a de nouveaux défis, des menaces sur la presse. C'est notamment l'expansion de l'espace numérique qui a aussi contribué à la démocratisation de l'information. Les médias traditionnels n'ont plus le monopole de la diffusion de l'information. Donc là aussi, il a fallu légiférer Et donc, cette loi dans le domaine de la cybersécurité, donc, s'appliquant à tout le monde, y compris les journalistes, elle n'est pas aussi souple que celle sur la liberté de la presse. Donc, il n'est pas rare que des journalistes tombent sous le coup de cette loi sur la cybersécurité. Ça, c'est un défi d'ordre législatif, une menace. Et par ailleurs, il y a également, pour moi, le défi en termes de modèle économique des médias. Désormais, les patrons de presse sont des businessmen, parfois des lobbies qu'il y a derrière la création des médias. Il y a aussi des acteurs politiques. Et tout cela a forcément un impact sur l'indépendance des médias. Et le dernier sujet que je voudrais souligner, c'est les relations entre les autorités et les médias. En Guinée, depuis plusieurs mois, il y a des médias qui en font les frais pour des raisons de convenance personnelle ou de vengeance. Des médias, et non des moindres, sont fermés parce qu'il y a mésentente entre les managers de ces médias et les autorités du pays. Et c'est une situation qui a entraîné la mise au chômage de plusieurs centaines de journalistes. On me parle de 500, ce qui est absolument aberrant. J'espère de tout cœur que très rapidement, cette crise va trouver son dénouement et que la presse guinéenne va continuer son avancée.
C'était la journaliste guinéenne Asmaou Bari. Eugénie Dieki, vous avez entendu, n'est-ce pas? Vous êtes au courant, je suppose que vous suivez la situation en Guinée à propos des médias. Quel regard portez-vous sur cette situation? On sait tout de même qu'il y a des médias il y a la restriction qui s'applique sur de nombreux médias. Il y a même des médias qui sont suspendus, des médias étrangers qui sont suspendus dans plusieurs pays. Donc quel regard portez-vous là-dessus? Eugénie Dieki, je pose la question à Eugénie et après je reviendrai vers Grâce. Eugénie, est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends.
Voilà.
Alors, au sujet de la... Vous m'entendez?
Oui, allez-y.
Au sujet de cette restriction imposée par le pouvoir guinéen, je conteste, je ne suis pas d'accord. En même temps, je comprends. Je pense qu'on est dans une époque... politique où certains pays africains, dont la Guinée, veulent se démarquer, veulent relancer leur pays à tous les niveaux et même sur le plan démocratique à leur façon. Donc moi je peux comprendre en fait que certains pays africains ne veulent plus que leurs concitoyens écoutent le seul son de cloche de l'Occident. Alors je peux comprendre parce qu'ils veulent peut-être regarder ou se regarder les uns les autres, quitte à peut-être parfois faire des entorses à la démocratie. Ça, effectivement, c'est condamnable. Mais je comprends, en fait, cette volonté de certains États africains à vouloir dire on ne veut plus entendre le son de cloche de l'Occident, on veut entendre le son de cloche qui vient de nous, en fait. Je comprends tout à fait ça. Maintenant, ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que le métier que nous faisons, c'est un métier qui est exaltant, qui est nécessaire, qui est utile, mais qui est également un métier, on va dire, où il n'y a plus de débouchés. Moi, de mon expérience, je sais que quand on est journaliste, on n'est pas que journaliste. C'est un métier qui m'a appris à être comme une espèce de couteau suisse. Donc, quand par exemple un média est fermé et que le journaliste ne peut plus vivre de son métier, il faut qu'il puisse faire autre chose et continuer à faire son métier. Parce que c'est son métier de base, même si par exemple il décide de se lancer dans l'agriculture, c'est une autre façon de faire son métier. Donc il peut pas forcément parler de politique, mais faire de l'agriculture, c'est aussi d'une certaine façon faire de la politique dans son pays. Donc je pense qu'il faut apprendre à se déployer pour continuer à faire son métier. Donc c'est un métier où on peut perdre son emploi du jour au lendemain parce que ce qu'on dit ne plaît pas aux autorités, mais on peut continuer à faire son métier d'une autre façon. Voilà.
D'accord.
Ce que je peux répondre.
Merci beaucoup, Eugénie. Grâce Israël Kangundu, est-ce que l'État congolais vous accompagne dans votre lutte de reconnaissance de la vérité et de ce problème, à savoir la violence contre les journalistes? Est-ce que le gouvernement vous entend et ordonne notamment des enquêtes pour les crimes contre les journalistes?
Voilà, Nathalie, je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ces niveaux-là d'assistance du gouvernement congolais. Nous sommes à la première étape du plaidoyer. Donc, l'année passée, je peux dire que le gouvernement a manifesté la bonne volonté de pouvoir accompagner ces plaidoyers en déclarant recevable le plaidoyer l'année passée lors de la journée internationale de la fin de l'impunité pour des crimes commis contre les journalistes. Donc, le ministre de la Communication et son collègue des droits humains avaient accepté l'argumentaire du plaidoyer. Et nous sommes en train de continuer de pourparlers. Nous avons mis des stratégies en place pour que ces argumentaires soient soumis au prochain Conseil de ministres et que le président de la République prenne acte pour accepter que ces journalistes assassinés soient élevés au rang de martyrs de la liberté de la presse. Donc, je vois déjà le premier pas est bon, mais nous continuons. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et surtout que Ces crimes ne sont pas endossés au régime actuel, à l'actuel régime. Donc, ce n'est pas facile aussi pour ces régimes d'accepter de lever tous ces journalistes au rang des martyrs de la liberté de la presse. Donc, il y a la volonté, mais nous sommes en train de mettre la pression au niveau national et au niveau international pour le président à élever tous ces journalistes au rang des martyrs de la liberté.
Merci beaucoup, Grâce. On va aller au Rwanda à présent pour écouter Jean-Louis. Et tout de suite après, on écoutera au Gabon la journaliste Raissa Oyaseko, qui est directrice de publication des Échos du Nord. Tout d'abord, Jean-Louis au Rwanda.
Par raison n'est pas raison, mais j'ai reçu il y a de cela deux jours le classement de cette année pour Human Rights Watch pour le Rwanda, qui est quasi similaire à ce d'une année passée. Je pense qu'il y a des améliorations à apporter et c'est possible de le faire, mais encore, on ne peut pas être à la fois au four et au moulin et vouloir donner l'exemple. Donc, je pense dans le cas du Rwanda, il faut mettre en contexte, donc savoir que nous venons d'une situation qui a été dramatique il y a de cela 30 ans avec le génocide contre les Tutsis. Donc au niveau de la liberté de la presse, elle est de fait, elle existe, mais il y a quand même certaines limites.
La promotion d'une information équilibrée et non partisane est un défi majeur dans le paysage médiatique actuel où la désinformation et la polarisation sont en hausse. Pour y arriver, il est important de soutenir le journalisme de qualité qui permet de s'abonner à des sources d'informations fiables et indépendantes en privilégiant les médias qui ont une réputation d'impartialité et de rigueur journalistique. Encourager le journalisme d'investigation qui est essentiel pour démasquer les abus de pouvoir et la corruption. À cela s'ajoute de développer un esprit critique. Nous avons tous des préjugés qui peuvent influencer notre façon de percevoir l'information. Le journalisme ne doit pas faire dans la précipitation. Il doit plutôt prendre le temps de réfléchir, de vérifier les informations avant de les partager. Il ne doit surtout pas partager une information sur les réseaux sociaux avant d'être assuré de sa fiabilité. La meilleure manière de promouvoir une information non partisane est aussi de lire des sources d'informations diverses. Tout journaliste doit s'exposer à une variété de points de vue pour avoir une vision plus complète des sujets qui l'intéressent. Aussi, soutenir les plateformes en ligne qui modèrent le contenu et suppriment les discours haineux et les fausses nouvelles.
Et voilà, c'était une analyse de la journaliste congolaise Raissa Sylvana Oyaseko. Analyse et des recommandations. Eugénie Dieki, en tant que femme, avez-vous subi des pressions supplémentaires pour exercer votre métier? Comment avez-vous surmonté le sexisme notamment?
Alors, vous m'entendez, c'est une question qui m'interpelle et qui m'intéresse et qui me fait souvent sourire. Effectivement, quand on est une femme, forcément, on subit le sexisme. J'ai la chance d'avoir été élevée par une mère et une grand-mère qui m'ont dit que mon premier métier, c'est mon mari, et qui m'ont donné les armes, en fait, pour savoir rester droite face à des hommes qui considèrent que ce qui est le plus important, c'est votre plastique et non pas votre matière grise. Et quand j'ai eu l'honneur d'être directrice des programmes d'Africa Numéro 1, aussi bien à Libreville qu'à Paris, moi, j'ai simplement observé les hommes. J'ai pris, on va dire, l'habit, le costume de l'homme, je l'ai porté et j'ai attaché la ceinture de la femme. Donc j'ai vraiment compris comment les hommes fonctionnent, mes confrères fonctionnent dans une rédaction. J'avais un avantage sur eux, c'est que au départ, j'ai jamais fait d'études de journalisme, mais en fait, le PDG de la radio Africa Numéro 1 avait dit que cette jeune dame n'a pas fait d'études de journalisme, mais parce qu'elle est une femme peut-être, elle fait de meilleurs reportages. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a donné confiance et qui ont fait en sorte que mes confrères hommes me respectent. Donc oui, j'ai été victime de sexisme, mais j'ai appris à me défendre, tout simplement.
Alors, grâce Israël Kangundu, hein, je rappelle que vous êtes présidente de l'Association congolaise des femmes de la presse écrite. Pourquoi êtes-vous regroupée? Est-il toujours difficile pour les femmes d'être embauchées dans les rédactions? Quels sont les problèmes que vous rencontrez en somme? Grâce, est-ce que vous m'entendez? Non, je crois qu'elle ne m'entend pas. Alors, ce n'est pas grave, on va en profiter pour écouter Dramane Kone, il est au Mali.
Concernant la liberté de la presse chez nous au Mali, en tout cas moi je voudrais juste donner mon point de vue. Bon, cette liberté de presse, je pense que ça en vaut la peine au cas où elle est respectée. Puisque quand vous prenez aujourd'hui les presses, surtout certaines ne donnent que des fausses informations et ne vont pas vraiment nous accentuer sur ces informations. Alors je ne dis pas tout, mais les presses aujourd'hui sont politisées, donnent des informations en leur propre faveur et non en la faveur de la population. C'est pourquoi elles ne sont pas aussi fiables, selon moi, parce qu'elles ne donnent pas les informations convenues. Quand on veut donner une information, il faut aussi respecter des règles à respecter.
Voilà, on était au Togo avec Fernandez. On écoute tout de suite au Tchad, Ozana Djimrangar.
Parlant de la liberté d'expression au Tchad, je pense que cela existe que de nom, puisque les journalistes n'ont pas la liberté d'exercer ou encore de faire normalement leur travail, puisque à tout moment, on voit des journalistes arrêtés, emprisonnés dans l'exercice de leur fonction. On les accuse de diffamation. Les hautes autorités du Tchad sont interpellées à laisser les journalistes faire normalement leur travail, parce que dans un pays où les journalistes n'ont pas la possibilité d'accomplir leur tâche, je crois que c'est un risque, c'est un grand danger pour le pays. Et encore en cette période électorale, je crois que les choses vont encore se compliquer à davantage. Mais nous espérons que ça va changer, parce que il y a ces journalistes-là qui sont en train de se constituer pour se défendre, parce que il est inadmissible de contrôler ces métiers, de contrôler ce domaine qui est vraiment essentiel pour le développement, pour la formation ou pour l'éducation de la population.
Eugénie Dieki, vous avez l'habitude de recruter des journalistes. Alors, quels sont vos critères de sélection? Autrement dit, quelles sont les qualités d'un bon journaliste?
Alors, c'est d'abord une personne qui est profondément curieuse, hein, profondément curieuse, curieuse de l'actualité, de l'environnement dans lequel il vit, qui lit beaucoup, qui s'informe, qui n'a pas peur du danger, qui a une forme d'impertinence, parce qu'effectivement, quand on est journaliste, en fait, la meilleure protection, c'est vraiment d'être impertinent face au pouvoir politique. Et puis, les autres critères, c'est quel est le feu qu'ils ont en eux, qu'est-ce qui les motive à vouloir aborder tel ou tel sujet, par exemple la question de l'assassinat des personnes, des journalistes en fait qui font leur travail. Ça, c'est un sujet pour lequel on pourrait consacrer sa vie. D'autres sujets, ce serait le sport ou la cause de la femme, et de plus en plus en fait je recrute des personnes qui comprennent que le monde a changé, véritablement changé, et qu'il faut, par exemple, parler des métiers de l'avenir. Voilà. Il faut des personnes passionnées, curieuses, et qui ont beaucoup d'impertinence. Voilà. C'est mes conditions pour qu'une personne travaille dans un média pour moi.
Merci beaucoup Eugénie Dieki. Je remercie également Grâce Israël Kangundu pour votre participation. Malheureusement, on ne peut pas évoquer toutes les questions qui entourent la liberté de la presse. On pourrait en faire des heures d'émission. On va rappeler ici tout de même que les États-Unis ont reculé en matière de liberté de la presse. En effet, on a, je crois qu'ils sont à la 55e place. Là, menace. Et l'on sait qu'il y a des problèmes de harcèlement en ligne, notamment envers les femmes et les minorités. Il y a également, ça peut donc avoir un impact sur leur qualité de vie et leur sécurité. On a de plus en plus une presse partisane, dit-on, aux États-Unis, selon le rapport de Reporters sans frontières. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Restez avec nous à l'écoute de VOA Afrique pour la suite de nos programmes. Bonne soirée et bon courage à tous.